Alors nous prenons la suite dans l'Exode. Et suite à cette prière que nous avons vue à la fin de l'Exode 33, nous allons lire le chapitre 34. Exode, chapitre 34, dans les versions second 21 comme celle-ci, vous êtes à la page 64. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, que l'on ne voit personne sur toute la montagne, que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin, gravit le mont Sinaï conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tient là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, long à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. » Il pardonne la faute et la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se seront produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel. Ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils, et celles-ci, en se prostituant à leur Dieu, entraîneraient tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé, au mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours du mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de petits bétail. Tu rachèteras le premier de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. Pendant 6 jours, tu travailleras. Tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même à l'époque du labour et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines au moment des premiers moissons de blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, je chasserai les nations devant toi. J'agrandirai ton territoire. Et personne ne cherchera à s'emparer de ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'offriras pas sur du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et on ne gardera pas le sacrifice de la Pâque pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse resta là, avec l'Éternel, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Au travers de ce texte, j'aimerais que nous voyions 3 points qui nous parlent de la gloire de Dieu. Le premier point, c'est que la gloire de Dieu se révèle dans ce qu'il est. Le deuxième point, c'est que la gloire de Dieu se révèle dans notre adoration, centrée sur lui. Le troisième point, c'est que la gloire de Dieu se révèle dans son médiateur. Premier point, la gloire de Dieu se révèle dans ce qu'il est. Alors que le peuple a tremblé dans les chapitres 19 et 20 à l'écoute de la voix de Dieu qui était en train de lui donner les commandements depuis le haut de la montagne, alors qu'il s'est engagé formellement devant Dieu, en fait, tout ça n'a pas tenu très longtemps. La première action collective du peuple, c'est finalement de briser la loi en construisant un veau d'or. Et finalement, en brisant les 2 premiers commandements, Moïse leur montre qu'ils ont violé toute la loi, que l'alliance est brisée et que l'engagement qu'ils avaient avec Dieu a ainsi disparu. Au début de ce chapitre 34, ce que nous voyons, c'est que Dieu appelle à nouveau Moïse à revenir. Il lui dit « Mais prépare 2 tables de pierre et reviens vers moi. » Il veut à nouveau y graver le texte de la loi. Cette fois, Dieu ne va pas rappeler toute la loi, il va juste lui donner quelques accents. En fait, il va restaurer la loi qui avait déjà été donnée. Il ne donne pas de nouveaux commandements, parce que les commandements n'ont jamais été la conséquence de notre péché, ils sont la conséquence du caractère de Dieu qui ne change pas. Et c'est pour ça que ces commandements nous enseignent encore aujourd'hui, parce qu'ils nous révèlent tout simplement qui est Dieu, quel est son caractère. Et ainsi, suite à la médiation de Moïse, Dieu renouvelle l'alliance avec son peuple. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Sur quelle base Dieu peut restaurer une alliance qui a été brisée par le péché de son peuple? Regardons dans les versets 5 à 7. Moïse s'est entretenu avec Dieu et il s'est écrié « Fais-moi voir ta gloire ». Et que fait Dieu maintenant? Il répond à sa prière. Il montre sa gloire, non pas en se révélant dans toute sa gloire, dans le sens où Moïse pourrait le voir, car il le dit « Personne ne peut me voir et vivre », mais en révélant qui il est. Regardez ce qu'il lui dit. « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, long à la colère, riche en bonté et en vérité. » C'est sans doute un des versets les plus importants de toute la Bible. Le verset le plus cité, en tout cas dans l'Ancien Testament, David le cite plusieurs fois, le prophète Joël aussi le cite pour inviter le peuple à revenir à Dieu. Jonas lui-même le cite également en disant « Mais moi, je ne veux pas annoncer ta parole. Je veux pas aller vers les Ninivites, parce que moi, je sais que tu es un Dieu de grâce, lent à la colère, riche en amour. » Dieu est un Dieu de grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce matin que Dieu est un Dieu de grâce? Ça veut dire que Dieu ne nous traite pas selon notre mérite. Combien de fois est-ce que nous disons Ou combien de fois est-ce que nous pensons que finalement nous n'avons ou qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent? Est-ce que c'est parce que nous disons à nos enfants quand ils rentrent avec une mauvaise note, tu n'as que ce que tu mérites? Si tu avais travaillé, tu n'aurais pas eu la note que tu as. Et c'est vrai. Mais imaginez, finalement, est-ce que ce ne serait pas injuste qu'il n'ait pas travaillé du tout et qu'il rentre avec une copie vierge et un 20 sur 20? C'est totalement injuste. Nous n'avons que ce que nous méritons. Et c'est juste. Le peuple vient de rendre une copie vierge. Il leur a donné une loi, il en a mis 10 en exergue, pour que ce soit bien clair, hein, qu'ils ne puissent pas dire, voilà, je me suis un peu perdu dans tous les commandements que tu as donnés, tu sais, il y en avait beaucoup, et là, je n'avais pas très bien compris la subtilité de « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Est-ce que ça voulait dire qu'un veau, c'est vraiment un autre Dieu? Ou « j'ai pas trop compris, tu ne feras pas d'image taillée ». Oui, mais quand je le fonds, est-ce que c'est vraiment taillé? Tu vois, en fait, moi, je l'ai fait en métal. Il n'y avait aucune subtilité dans les 10 commandements. C'était hyper clair. Et le peuple vient de rendre une copie vierge. D'ailleurs, quand dans les chapitres précédents, Moïse veut défendre le peuple auprès de Dieu, il dit pas, tu sais, il y a quand même des bonnes choses dans ce peuple. Il y en a sans doute quelques-uns qui n'étaient pas totalement d'accord avec ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se sont juste un peu laissés entraîner. Ils ne cherchent aucune excuse pour le peuple. Il dit à Dieu, la seule façon que je peux témoigner pour eux, c'est qu'on arrête de parler d'eux et qu'on parle de toi. Ne parlons pas de ce peuple qui vient de pécher, parlons de toi, parlons de ce que tu as fait pour eux, parlons de tes promesses, parlons de qui tu es, parlons de ta capacité à encore atteindre tes projets au travers Dieu. Et ici, qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, l'Éternel. L'Éternel, deux fois, il dit, tu as raison Moïse, ne parlons pas d'eux. Ne parlons pas d'eux, parlons de moi, parce que je n'ai rien trouvé qui puisse défendre leur conduite. Je suis un Dieu de grâce. C'est la première affirmation de Dieu. Lorsqu'il se présente à nous, la première chose qu'il nous dit, je suis un Dieu de grâce. Je ne viens pas te voir sur la base de tes mérites. Je viens te voir sur la base de ma seule grâce. Je ne vous traiterai pas selon votre caractère. Je vous traiterai selon mon caractère. Pourquoi? Parce qu'il le dit, Dieu est un Dieu compatissant. Et nous devons le savoir. Dieu compatit à notre situation. Il connaît l'impact. Il connaît l'emprise du péché sur nos vies. Vous savez, le peuple vient de lui cracher au visage. Et Dieu dit, je suis compatissant. Il n'est pas un Dieu étranger, lointain, un Dieu qui ne comprend pas ce que nous vivons, un Dieu qui ne connaît pas nos luttes, nos faiblesses, nos désespoirs. Il sait toutes les fois où nous avons dit, où nous avons pensé, plus jamais ça. Il sait ce que nous avons ressenti après chacun de nos échecs dans notre lutte contre le péché. Il connaît nos hontes, il connaît nos douleurs et il ne s'en réjouit pas. Le psaume 103 qui cite ce verset dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Pourquoi? Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il ne dit pas, encore, encore, encore. Mais quand est-ce que tu arrêteras? Quand est-ce que tu changeras? Il est compatissant. Il vient à nous parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Mais il ajoute, je suis lent à la colère. Lorsque Dieu révèle à Moïse le péché de son peuple, lorsqu'il révèle qu'il s'est détourné de lui, il dit maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. Tandis que je ferai de toi une grande nation. Et cela nous rappelle que Dieu est véritablement en colère contre son peuple. Il ne s'agirait pas de croire que grâce plus compassion égale laxisme, que Dieu s'en fiche en fait. La grâce et la compassion, c'est le fait que ça va aller. Ok, c'est pas si grave. Et puis, je suis un peu au-dessus de ça. Hein. Vous savez, moi je suis Dieu, je suis dans les cieux, j'en ai vu d'autres. Dieu est vraiment outré par le péché de son peuple. Le fait qu'il soit grâce, qu'il soit compassion, qu'il comprenne, n'enlève rien à sa colère. Dieu n'épargne pas le peuple parce que ça va. Ok, je peux gérer. Je peux accepter que vous ne soyez pas parfait. Je ne suis pas tellement concerné finalement par votre péché. Mais il n'est pas surpris non plus par notre péché. Il n'est pas décontenancé par notre péché. Ce n'est pas un Dieu frustré qui finit par perdre patience. Vous savez, c'est pas cet enfant que vous n'avez pas puni et qui revient et qui revient et qui revient et puis la moutarde monte, puis tout d'un coup vous explosez et l'explosion n'a rien à voir avec la faute. Nous n'avons pas un Dieu frustré. Nous avons un Dieu qui a une colère juste, claire, instantanée face au péché. Le peuple pêche et la colère de Dieu s'enflamme. Mais il retient sa colère. Il est lent à la colère. Dieu n'est pas un Dieu qui se laisse déborder par ses émotions avant même de leur envoyer Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Il savait qu'on en arriverait là. Il savait qu'on arriverait au Sinaï. Il savait qu'il y aurait un veau d'or. Il n'est pas surpris par le péché du peuple. Il n'est pas surpris par notre péché. Dieu est en colère, mais sa colère n'est pas injuste parce qu'elle n'est pas liée au fait que le peuple vient juste le déranger dans sa tranquillité. Sa colère est une manifestation de sa justice. Sa colère met le peuple face à sa responsabilité. Sa colère le condamne. Mais Dieu précise, il est lent à la colère. Dieu est réticent à punir le peuple qu'il aime, même quand celui-ci se rebelle contre lui. Dans sa patience, il attend la repentance. L'apôtre Pierre le dit dans sa deuxième lettre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme certains le pensent, au contraire. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et dans le contexte de Pierre, la promesse, c'est le jugement. Quand il dit Dieu ne retient pas sa promesse, c'est la promesse de jugement. Et Dieu est patient parce qu'il attend à ce que nous venions à la repentance. Qu'est-ce qu'il ajoute ? Il ajoute que Dieu, enfin, il parle de lui-même, il dit qu'il est riche en bonté et en fidélité. Et le terme qui est utilisé ici pour parler de la bonté, c'est le terme chesed, c'est un terme que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament, et c'est un terme qui fait spécifiquement référence à l'engagement de Dieu envers son peuple au travers de l'Alliance. En fait, ce terme pourrait aussi être traduit par vérité, fidélité, amour, grâce, compassion, bonté, mais à chaque fois, le contexte est que Dieu est en train de parler de son engagement à lui au travers de l'Alliance. Dieu aime son peuple. Il ne l'aime pas malgré ses péchés. Il l'aime parce qu'il s'est engagé à l'aimer, par fidélité, pour lui-même, à ses promesses. Et en fait, c'est ce même amour que l'on va retrouver exposé par l'apôtre Paul pour nous parler du mariage chrétien. C'est l'amour volontaire. C'est l'amour volontaire dans le sens où l'amour n'est pas assujetti aux sentiments, mais il est assujetti à la volonté. C'est ce que Florian avait dit, vous vous rappelez quand ils se sont mariés avec Sophie? Il avait dit, on s'est mariés parce que l'on s'aimait, et maintenant on s'aime parce qu'on s'est mariés. C'est-à-dire que le premier amour était un amour qui était assujetti aux sentiments, et c'est beau. Parce qu'ils éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre, ils se sont mariés. Parce qu'ils se sont mariés, ils s'aiment, et les sentiments suivent. L'amour de Dieu n'est pas assujetti aux sentiments, il est assujetti à sa volonté. Dieu nous aime parce qu'il s'est engagé envers nous, par son alliance. Et c'est rassurant parce que ça veut dire que son amour ne dépend pas de ce que nous faisons. Son amour dépend de ce qu'il est, C'est pas parce que je me suis levé de mauvaise humeur ce matin que Dieu ne m'aime pas. Parce que lui, Dieu s'est levé avec la même humeur qu'il avait, parce qu'il est immuable dans ses sentiments. Parce que Dieu ne change pas. Mais c'est un amour qui porte du fruit. Ce n'est pas un amour stérile. Et le fruit de l'amour, il le dit, c'est un amour qui pardonne. Il dit, il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte, le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Qu'est-ce que ça veut dire? On a Dieu qui dit, mais je vous aime et je vous pardonne jusqu'à 1000 générations. Mais si vous êtes coupable, je vous punis, et je punis même la faute des pères sur les enfants et même sur les petits-enfants. Quelques observations sur ce verset. La première chose, c'est qu'il dit que son amour dure 1000 générations. Et le chiffre 1000 dans la Bible évoque toujours une immense multitude. Il évoque toujours ce que l'on ne peut compter tellement c'est immense. Dans le livre de Daniel, Belshazzar organise une fête à laquelle sont 1000 invités. Je suis sûr qu'il ne les a pas comptés. Il y a 1000 invités. C'est immense, une fête avec 1000 invités. Salomon, à Gabaon, offre 1000 holocaustes à Dieu. Il y a une volonté de que ce soit innombrable. Dans l'Apocalypse, la grande multitude, elle est de 12 fois 12 fois 1000. Le peuple de l'Ancien Testament, le peuple du Nouveau Testament, par une multitude innombrable. Et le texte nous dit qu'on ne peut pas les compter tellement il y en a. 1000 générations, c'est pas que au bout de 1000 générations, Dieu dit « Trop tard ». Écoute, c'est vraiment pas de chance parce que le 1000e, c'était ton père. C'est pas le sens. 1000 générations, c'est que l'amour de Dieu ne s'arrête jamais, qu'il est innombrable, qu'il recouvre toutes les générations. C'est ce que ailleurs, on va appeler la grâce commune. Que tout homme est couvert par la grâce commune parce qu'il est homme, fait par Dieu. Parce que Dieu est le Père de chaque homme, converti ou non converti. L'amour pardonne la faute, la révolte, le péché. Il ôte le poids de la culpabilité sur nos épaules. Le peuple s'est détourné de Dieu. Et on peut imaginer la honte qu'ils ont dû ressentir quand Moïse est descendu. Ils étaient en train de danser, et on a dit qu'ils ne jouaient pas forcément au Scrabble autour de ce veau d'or. Et Moïse arrive. Il fait tomber la loi par terre. Et là, je pense qu'ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire. Là, je pense que vraiment, ils se disent « Waouh, on est allé un peu trop loin ». Vous savez, ce n'est pas juste la honte du petit enfant qui se fait prendre le doigt encore plein de confiture. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs ça. On peut voler la confiture, on n'en a aucune honte, ça se passe bien. C'est plutôt sympathique. Et au moment où maman arrive, il y a un truc qui se passe. On a honte de ce qu'on est en train de faire. Mais imaginez le décalage là. Ils sont en train d'adorer un veau d'or. Moïse descend. Son visage est enflammé de colère. Je crois que la honte est là. Je crois qu'ils sont en train de réaliser. Imaginez Aaron. Aaron qui aurait dû dire au peuple, « Oh les gars, on sait où il est Moïse. Hein. » Quand vous dites « Vous ne savez pas où il est », on sait, il est juste là. Il va revenir, il a dit qu'il allait revenir. Et juste rappelez-vous qui nous a fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous des 10 plaies, rappelez-vous de la mer qui s'est ouverte, rappelez-vous de la manne, que vous venez de manger ce matin. Hein. C'était pas très loin. Rappelez-vous de la victoire quand Moïse levait les bras. Imaginez la honte d'Aaron quand il voit Moïse. Dieu pardonne. Il enlève le poids du péché. Il enlève la honte. Quand nous péchons, nous avons honte. Notre conscience nous reprend. Et c'est normal. Mais Dieu enlève la honte. Et nous devons accepter que Dieu enlève la honte. Nous devons accepter que le pardon de Dieu enlève notre honte. Vous vous rappelez de cette image? C'était une belle journée. Les mariés étaient beaux. La cérémonie émouvante. Tout était parfait. Jusqu'à ce que sur le parvis de la mairie, la jeune épouse quitte son alliance pour la jeter et crache au visage de son mari. Parte au bras du témoin. C'est ce qui s'est passé avec le veau d'or. Imaginez cette femme qui retourne auprès de son mari. Son mari connaît son infidélité, mais elle lui demande de redevenir sa femme. Son bien le plus précieux, sa joie, c'est pas juste. Vivons ensemble et faisons comme si rien ne s'était passé. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est de ne plus se servir de la faute pour juger l'autre. Le pardon, c'est d'enlever la honte qui est liée au péché, de lui redonner exactement la même place qu'avant. Dieu considère son peuple infidèle de la même façon qu'avant son péché. Il refusera à chaque fois d'accuser son peuple à cause de son péché. Et pourtant, il dit que Dieu ne déclare pas impuni le coupable, qu'il punit la faute des pères sur ses enfants et les petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le pardon, ce n'est pas le renoncement à la justice ? Que le péché a des conséquences ? Que nous ne péchons jamais seuls ? Et que si Dieu nous délivre des conséquences éternelles de notre péché, il nous laisse soumis, au moins en tout cas en partie, aux conséquences terrestres de nos péchés. Et j'utilise assez souvent cette image, je ne peux pas aller faire mes courses en passant à la caisse, ne payant pas et m'écriant « Je suis chrétien, Christ a payé pour moi ». À essayer pour voir. Non, essayez pas. Dieu me laisse soumis aux conséquences de nos péchés sur cette terre. Nous souffrons et le monde n'est pas ce qu'il est. Parce que nous sommes soumis aux conséquences de nos péchés. Pas toutes les conséquences. Le monde n'est pas tel qu'il devrait être. La Bible nous dit que par la faute d'Adam, le péché est entré dans le monde. Ouvrez la télévision ce soir à 20h, regardez le journal télévisé. Vous n'allez pas reconnaître Éden, je vous assure. Vous n'allez rien voir d'Éden dans le journal télévisé de 20h. Lisez Genèse 4 à 5 et regardez à quelle vitesse le péché d'Adam s'est répandu, à quelle vitesse il progresse. On est passé d'un fruit mangé à Noé en quelques pages. On est passé d'un fruit mangé à Dieu qui dit « On efface tout, c'est plus possible, je vais détruire toute la terre, il n'y a pas un seul juste sur cette terre ». Les hommes sont trop horribles. On est passé d'un fruit mangé à un meurtre. On est passé d'un meurtre à Lémec. Lisez le profil de Lémec et voyez si vous voulez l'avoir comme voisin. Le péché a des conséquences et se répand à toute vitesse. Mais le monde n'est pas tel qu'il devrait être, aussi parce que Dieu limite les conséquences de notre péché. Si Dieu ne limitait pas les conséquences de notre péché, il faudrait sans doute un déluge par siècle, peut-être plus souvent d'ailleurs. Pas sûr que ce serait suffisant. Moïse avait demandé à voir la gloire de Dieu, et il l'entend. La gloire de Dieu l'aurait consumé. L'entendre le conduit à l'adoration. Il ne cherche aucun mérite, ni pour lui, ni pour son peuple, mais il fait appel à la seule grâce de Dieu. Et sa prière n'est pas juste d'être sauvé, mais d'appartenir à Dieu. Deuxième point. La gloire de Dieu se révèle dans notre adoration. La réponse de Dieu à Moïse, c'est le renouvellement de l'alliance qui avait été brisée. Mais Dieu ne fait pas que redonner les tables de la loi, il restaure véritablement cette alliance. Et quand on regarde l'accent de ce qu'il dit, cela porte sur Dieu. Regardez, l'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout le peuple des merveilles qui ne se sont pas produites dans aucun pays ni aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel que j'accomplirai par toi, inspirera de la crainte. » Et cet accent sur le « je » du Dieu qui accomplit son alliance, on va le retrouver tout le temps. et notamment dans tous les livres prophétiques qui annoncent la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui nous rappelle encore une fois que notre rédemption est uniquement due à la grâce de Dieu. Mais dans ce contexte, cela met aussi la lumière sur un autre point. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est étonnant, il dit que les peuples vont voir quelque chose qui ne s'est jamais produit, tellement c'est merveilleux. Et on se dit, mais c'est quoi ? De quoi est-ce qu'il est en train de parler ? Il dit un truc que les peuples vont voir, qui fera plus de bruit que les dix plaies d'Égypte, qui fera plus de bruit que la mer ouverte. Vous vous rappelez ce qui se passe quand le peuple arrive 40 ans plus tard à Jéricho ? Rahab sait qui est Dieu, parce qu'elle a entendu les merveilles de ce qu'il a fait en Égypte. Elle a entendu comment Dieu a délivré son peuple, et elle le connaît. Et là, Dieu dit, mais je vais faire un truc encore plus immense parmi vous. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il va sanctifier son peuple. Il va le rendre comme un peuple à part, un peuple parmi les autres peuples. Il va faire de lui un peuple saint. Et ça, ce n'est pas notre boulot, c'est le boulot de Dieu. Regardez, dans les versets 12 à 26, il donne une série de commandements. Et c'est étonnant parce qu'on se dit, mais c'est bizarre. Ok, il redonne les 10 lois, on a compris. Il avait donné tout plein de commandements, mais il ne les redonne pas tous. Il sélectionne, il en choisit quelques-uns. Pourquoi ? La première chose qu'il veut leur montrer, c'est que la justification et la sanctification, c'est l'œuvre de, c'est son œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et cette sanctification, ils vont la vivre au travers de plusieurs axes, au travers de deux demandes particulières. La première demande, c'est d'écarter les autres dieux. Je vous sanctifie et vous écartez les autres dieux. Regardez, ne faites pas une alliance avec les habitants du pays. Pourquoi ? Parce que sinon, ils vont vous conduire à l'idolâtrie. Ensuite, ne vous prosternez pas devant d'autres dieux. Parce que sinon, vous êtes idolâtre. Ah oui, mais pourquoi ? Parce que Dieu est jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est jaloux ? Est-ce que vous aimez la jalousie ? Non, pas trop, hein ? Enfin, surtout celle des autres. Mais qu'est-ce que c'est que d'être jaloux ? Comment Dieu peut être jaloux ? Devons comprendre qu'il y a deux jalousies. Il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Je vous donne un indice, celle de Dieu est bonne. La mauvaise jalousie, c'est d'être jaloux de ce qui ne nous appartient pas. Quand je suis jaloux de la femme de mon voisin, c'est mal. Y compris pour sa voiture, y compris pour plein de choses. En fait, je suis un idolâtre. Quand je suis jaloux de ce qui ne m'appartient pas, c'est mal. Mais quand le voisin essaie de séduire mon épouse, et que je suis jaloux, c'est bien. Parce que je suis en train de protéger ce qui m'appartient. Et si je n'étais pas en colère contre mon voisin quand il séduit mon épouse, il y a quand même un problème. La bonne jalousie, c'est quand nous protégeons ce qui nous appartient. Et Dieu fait ça. Dieu est un Dieu jaloux. Il protège son peuple, qui lui appartient. Et tout le contexte nous va rappeler que nous appartenons à Dieu. Et c'est pour ça que nous ne nous tournons pas vers d'autres dieux. Regardez, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? Il le dit, c'est d'être infidèle. C'est d'aller vers, se prostituer vers d'autres dieux. Il va dire juste après. Regardez, exemple, ne laissez pas vos fils se marier avec les filles du pays. Pas parce que les filles sont moins bien, parce qu'elles vont vous attirer vers leur dieu. Et que je suis un dieu jaloux. Tous les commandements que Dieu va donner ici, tous les commandements négatifs, toutes les choses qu'il ne faut pas faire, ont directement vocation à protéger le peuple de quoi ? De son péché. Le peuple a entendu la loi, il s'est engagé, et il a été idolâtre. Dieu redonne la loi et lui dit « rappelle-toi ». Le premier truc dans ta vie, Le premier truc que tu fais quand tu ne penses plus à moi, ben c'est d'aller en voir un autre. Et c'est ce que nous faisons en permanence. Nous sortons de la salle de culte et nous nous plongeons dans une autre idolâtrie, dans quelque chose qui a plus d'importance que Dieu dans nos vies. Et Dieu nous dit, il y a un truc que je ne veux pas, c'est ça. Je ne veux pas que tu ailles voir d'autres dieux. Je suis un Dieu jaloux et tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Va pas voir ailleurs. Deuxième demande. Une demande positive. Une demande d'adoration. À partir du verset 18, c'est pas des choses qu'il ne faut pas faire, c'est des choses qu'il faut faire. Et toutes ces choses parlent d'adorer Dieu. Regardez. Au début, nous commençons au verset 18, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 18. Nous adorons Dieu en trouvant notre repos en lui. Chaque semaine, Dieu demandait au peuple de lui consacrer une journée. Il dit, mais il y a une journée où tu ne travailles pas. Une journée où tu prends du temps pour moi. Et vous savez ce qu'il avait fait? C'est qu'il donnait la manne tous les jours, sauf un jour. Ce jour-là, il n'y avait pas de manne. Et la veille, on devait travailler deux fois plus. Mais la manne allait s'arrêter. Et on aurait pu croire que le sabbat était juste lié à la mauvaise humeur de Dieu, en fait, que Dieu ne voulait pas travailler le sabbat. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais vous savez, quand vous allez arriver dans le pays, vous allez bosser, vous allez avoir des récoltes. Puis vous savez, il y a vraiment un moment où c'est super intense, où tout est là, il faut vite, 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 vite. Vous avez coupé le foin, il est par terre, et vous savez que le lendemain, il va pleuvoir. C'est quoi votre priorité? Dieu leur dit, c'est moi. On s'en fiche du foin qui est mouillé par terre. Il y en aura l'année prochaine, je me débrouillerai, je suis souverain. La priorité, c'est moi. La première chose qu'il leur dit, c'est que fuyez l'idolâtrie, remettez-moi au cœur de vos vies. Parce que je m'occupe de tout. Même quand tu auras des récoltes et vous serez débordés, prenez votre temps, soyez calme. Je suis souverain, trouvez votre repos en moi. C'est moi qui suis là. C'est quoi? Quelques gouttes de pluie sur un peu de foin. C'est pour ça que vous voulez gâcher la relation avec moi? Vous avez vraiment rien compris. Le repos, vous ne le trouverez pas ailleurs qu'en moi. Deuxième chose, nous l'adorons en nous souvenant que nous lui appartenons. À la sortie de l'Égypte, Dieu avait demandé au peuple de lui consacrer ses premiers-nés. Mais en fait, là aussi, on l'a fait une fois et puis on pourrait vite s'en souvenir. Le but, c'était de rappeler au peuple que vous m'appartenez. Vous rappelez, j'ai pris les premiers-nés de l'Égypte hein, pour vous. Mais en fait, vous êtes aussi coupable qu'eux, donc maintenant, je prends les premiers-nés chez vous. Et vous me les consacrez. Et ça, c'était une génération. Comment ça va se passer dans le temps? Dieu dit, on va continuer. Génération après génération, vous allez me consacrer vos premiers-nés. Premier-nés du bétail. Premier-né de vos enfants. Alors pour le bétail, c'était facile. On prenait le premier-né, on le tuait et on l'offrait en sacrifice. Ah, il y avait une exception. C'était quoi? L'âne. Ah oui, parce que l'âne, c'est un animal impur. Alors Dieu ne voulait pas qu'on lui offre un animal impur. Il tolérait l'âne parce que c'était une bête de somme, donc on l'utilisait pour le travailler. Il était toléré parmi le peuple. Mais on n'avait pas à offrir une bête impure pour Dieu, quoi. Dieu voulait des sacrifices qui soient purs. Alors il leur dit, pour l'âne, j'ai une autre solution, vous sacrifiez un agneau à la place. Pour l'homme, comment on fait? Je suis désolé. L'homme est dans la catégorie des ânes. oui. L'homme est impur comme l'âne. Et on va offrir un agneau. Même prix. Un agneau pour un homme. Dieu voulait que le peuple se rappelle qu'il est impur et qu'il lui faut un substitut. Il faut que quelqu'un le remplace. Il faut que quelqu'un meure à sa place. Nous l'adorons en nous souvenant de ce qu'il a fait. Et trois fois par an, le peuple était appelé à avoir des fêtes qui lui rappelaient ce que Dieu avait fait, il lui rappelait la délivrance de l'Exode. Il y avait trois fêtes qu'on appellera ensuite les fêtes des montées, puisque pour ces fêtes-là, tout homme devait aller à Jérusalem. Et Dieu promettait une protection particulière du peuple. Il disait, mais pendant que vous irez à Jérusalem faire la fête, les pays ne vous attaqueront pas, vous serez en paix. Tant que vous ferez ça, il n'y a pas de souci. Donc Dieu pourvoyait aussi là au repos du peuple. Il y avait trois fêtes qui sont nommées là. À Pâques, il y avait la fête des pains sans levain. Et Jean-Pierre nous l'avait expliqué, hein, vous savez, on faisait du pain et on gardait un peu du pain pour en faire du levain pour faire et donc c'était vous mangez toujours un petit peu le pain de la veille en fait, puisque vous aviez repris un peu de pain pour faire le levain du pain. Et là, il leur demande de se séparer, de couper, pour leur montrer que ils sont une nouvelle pâte en fait, qu'il n'y a plus rien de commun avec avant. Et donc pendant 7 jours. On ne met pas de levain pour être sûr qu'il n'y ait plus de levain dans le pain et qu'on a un pain nouveau. Et ça leur rappelait de la séparation d'avec le péché. Et donc, année après année, ils vont se rappeler de ça, que Dieu les a séparés du péché. La deuxième chose, c'est qu'il y avait la fête des semaines ou la fête des prémices. Alors, on l'appelait la fête des semaines parce qu'elle était 7 semaines après la Pâque. C'était le début des récoltes. Et l'objectif, c'était de donner les premières récoltes. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait normalement? On est tout content, on récolte, et puis vite, on met dans un grenier. Quoi. On dit, au moins, on aura ça. Quoi. Et là, Dieu disait, non, ça, c'est pour moi. Toi, tu verras ce qu'il y a pour toi, hein. Mais ce que tu viens de prendre, ça, c'est pour moi. Et ça, ça nous rappelait que Dieu était souverain, que c'était lui qui gérait. Que c'était lui qui avait la première place dans la vie. Et puis, à la fin des récoltes, il y avait une nouvelle fête, que l'on appelait la fête des récoltes, ou la fête des tabernacles, ou la fête des cabanes, où en fait on allait pendant 7 jours, on installait une cabane près de chez soi, et on allait dormir dans cette cabane, et cette cabane avait vocation à rappeler la providence de Dieu pendant son voyage dans le désert. Dieu a pris soin de son peuple dans le désert, à tel point que leurs chaussures ne se sont pas usées. Dans cette section, finalement, nous voyons que Dieu se glorifie quand son peuple l'adore, en abandonnant ses idoles et en mettant sa vie dans l'être de Dieu, en fait, en se plongeant dans Dieu, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il est. Dernier point, je serai plus court, la gloire de Dieu se révèle dans son médiateur. Vous avez vu la fin du texte, c'est assez étonnant. À nouveau, il y a comme si la caméra tournait, et puis on regarde Moïse, et Moïse redescend. Et puis il y a quelques échos qui sont faits quand les 10 commandements ont été annoncés. Quand les 10 commandements ont été annoncés, le peuple était terrorisé. Et parce qu'ils étaient terrorisés, ils ont dit on ne pêchera pas. Ça n'a pas marché. Hein. Juste rappelez-vous, vous pouvez faire peur aux enfants, ça ne les empêchera pas de pêcher. Ils sont tellement terrorisés qu'ils demandent à Moïse d'intervenir et ils lui disent « Parle-nous, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Et à nouveau, ils vont voir Dieu au travers de Moïse et ils ont peur. Et ce coup-ci, Moïse va les appeler à revenir à eux. Moïse n'a pas pu voir la face de Dieu, mais le peuple contemple Dieu au travers de son médiateur. Et ce qui est assez fou, c'est que Moïse dit « Je veux voir ta gloire !» Et Dieu lui dit pas non, en fait. Dieu lui dit jamais non. Il lui dit juste « Tu verras pas mon visage. » Il lui dit juste « Ma gloire, en fait, elle se voit, mais pas de la façon dont tu crois. » Comment se voit la gloire de Dieu? Comment est-ce que Moïse a vu la gloire de Dieu? En l'écoutant. Regardez, Dieu lui parle, Dieu se révèle par sa parole, et Moïse brille. Et puis il descend, il transmet ce que Dieu a dit, et il brille tellement qu'il doit se cacher le visage pour pas éblouir ceux à qui il parle. Vous imaginez un peu le truc? Et puis il rentre à nouveau dans la tente, il se découvre, il est en face de Dieu, et il ressort, il brille, et il parle. Moïse révèle Dieu par sa parole. Il parle avec Dieu, puis il parle avec le peuple. Par son médiateur, Dieu remplit sa promesse. Il habite au milieu de son peuple. Tout cela, des milliers d'années avant qu'un autre médiateur vienne. Un autre médiateur qui est descendu d'auprès de Dieu. Un autre médiateur qui révèle Dieu par sa parole. Un médiateur dont le visage resplendit, mais pas de la même façon. En quoi est-ce que Jésus est plus grand ? Le visage de Moïse resplendit parce qu'il est dans la présence de Dieu. Jésus resplendit parce qu'il est Dieu. Et on voit ça notamment sur la montagne de la Transfiguration, où alors que les disciples le confondent, ils ne savent plus trop, il y a Moïse, il y a Élie et tout, qu'est-ce qui se passe ? Et tout d'un coup, que dit Dieu ? Il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute approbation. » Ne le confondez pas avec Moïse. On n'est pas du tout du même niveau. Il n'y a rien à voir. Moïse brillait parce qu'il était près de moi. Mon fils brille parce qu'il est Dieu. Moïse brillait pour révéler la parole de Dieu. Jésus a dû se voiler pour pouvoir révéler la parole de Dieu sans consumer ce qui l'entourait. Il n'y a pas photo entre les deux. La gloire de Moïse ne peut égaler celle de Jésus. La gloire de Jésus n'est pas due à sa proximité avec Dieu, mais au fait que lui-même est Dieu. En Jean 1, 14, il nous est dit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. » Encore une fois, la gloire de Dieu s'est parfaitement, pleinement révélée par son médiateur. Un médiateur qui continue de nous parler par sa parole. Vous voulez voir la gloire de Dieu ? Lisez sa parole. Dieu parle et vos visages brilleront. Et le peuple verra ce que Dieu est en train de faire. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Il est en train de vous sanctifier, de vous mettre à part. Ce n'est pas vos œuvres qui vous sanctifient, parce que nous sommes son œuvre. C'est lui qui le fait. Comment le fait-il ? Par sa parole. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu glorieux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Et cela nous dépasse complètement, dans le sens où tu n'es pas de cet univers. Tu es extérieur à notre compréhension, à notre intelligence. Tu n'es pas dans le temps, tu n'es pas dans l'espace. Tu es partout, tout le temps, le même. Tu connais avant, après, tu connaissais tout ce qui allait se passer, tu sais ce que nous pensons maintenant, alors que tu le savais même dès avant la création de l'univers. Tu es aussi un Dieu glorieux parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu qui nous aime à la perfection, un Dieu qui s'est offert lui-même pour nous parce qu'il n'y avait rien de suffisant d'autre que toi-même sur une croix. Un Dieu qui nous a justifiés et un Dieu qui nous sanctifie. Et c'est ta promesse, c'est ton engagement de nous rendre semblables à toi. Et nous le serons un jour quand nous serons définitivement avec toi. Quand tu n'auras plus besoin de masquer ta gloire et que nous te verrons tel que tu es. Dans ce temps où nous t'attendons, notre Dieu continue à nous montrer ta gloire par ta parole. Par ton esprit, aide-nous à comprendre qui tu es. Parce que c'est quand nous te connaissons mieux que nous devenons comme toi. Aide-nous à nous saisir de ta parole pour comprendre ce que tu révèles sur nous, sur notre péché, sur notre idolâtrie, sur nos comportements. Aide-nous à conforter notre foi par ta parole. Aide-nous à croire en toi, à avoir confiance que tu es tout ce dont nous avons besoin. Que notre plaisir, notre joie est en toi et en toi seulement. Qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous satisfaire si ce n'est toi. Que tout est pâle à ta lumière. Seigneur, donne-nous de voir ta gloire. Nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.